Vous êtes sur RTL. RTL Soir
avec Stéphane Carpentier.
18h49, presque 50, c'est la semaine d'Éric Brunet, liberté de parole, donc en direct. Bonsoir Éric.
Bonsoir Stéphane.
Et ça commence par les États-Unis. C'était mardi, jour de l'élection présidentielle américaine, dont le vainqueur n'a donc toujours pas été officiellement proclamé au moment où on parle, Éric.
Eh oui, d'ailleurs, mercredi matin, 7h, comme beaucoup, je me lève, et on annonce que Trump est en passe d'être élu. Il a 4 millions de voix de plus qu'en 2016. Il a gagné l'Ohio, qui vote toujours pour le gagnant. Et puis, patatras, jeudi matin, 7h, je me lève encore, mais là, on annonce que c'est Biden qui est en passe d'être élu, car il a gagné le Michigan et le Wisconsin. Ce retournement total de situation, on le sait, est la conséquence du dépouillement des millions de votes par correspondance. Et c'est ce système de vote controversé sur lequel s'appuie Trump pour accuser les démocrates de fraude. Pourtant, en France, Stéphane, plusieurs responsables politiques, comme François Bayrou, Rachida Dati, plaident pour le retour du vote postal, du vote par correspondance, pour permettre notamment aux électeurs de ne pas avoir à se déplacer pendant la crise du Covid, par exemple. Il faut quand même rappeler que ce vote par correspondance avait été supprimé en 1975 parce que justement on jugeait qu'il favorisait les fraudes. À l'époque, les rumeurs accusaient les PTT noyautés par le Parti communiste de subtiliser des bulletins de vote. En tout cas, moi j'ai un autre argument. Avec ce vote par correspondance ou ce vote postal, les électeurs ne sont plus amenés à voter simultanément, en même temps, tous ensemble. Plusieurs jours, voire même plusieurs semaines peuvent s'écouler entre l'envoi de l'enveloppe et le jour du scrutin. Aux États-Unis, des millions d'électeurs ont voté avant même la tenue des débats télévisés. Si ça se trouve, tiens, les débats à la télévision les auraient peut-être conduits à voter différemment. Alors, ce vote anticipé par correspondance, je vous le dis, pour moi, Stéphane, c'est la fausse bonne idée.
En attendant le verdict américain, Éric, les autres temps forts, c'était mardi aussi, le procureur de la République de Soissons a publié un communiqué sur les conclusions de l'enquête à propos de la mort d'Elisa Pilarski.
Ah oui, ça c'est important. C'est l'épilogue d'une histoire qui avait horrifié la France. Il y a un an, on retrouvait dans une forêt de l'Aisne le corps sans vie d'Elisa Pilarski, criblé de morsures de chien. Et cette jeune femme, enceinte de 6 mois, avait été, on le sait, mortellement attaquée lors d'une promenade avec Curtis, le pitbull de son compagnon. Son compagnon, justement, avait aussitôt mis en cause une meute de chiens de chasse à cour qui était à proximité. Et il y avait une campagne anti-chasse qui avait été lancée, relayée d'ailleurs par des influenceurs qui présentaient les chiens de chasse comme responsables de cette attaque. Eh bien, les chasseurs ont été traités d'assassins, ils ont été jetés en pâture sur les réseaux sociaux, alors même que selon la société de Vennerie, aucun accident corporel humain n'a jamais été révélé au cours d'une partie de chasse à court. Bref, après un an d'enquête, les expertises ont enfin parlé cette semaine. Les tests ADN et l'analyse des morsures confirment sans aucun doute possible la responsabilité du pitbull, Curtis, et l'innocence absolue des chiens de chasse dans cette affaire. On a aussi découvert que Curtis était issu d'une sélection de chiens de combat illégal en France. Alors voilà, si on veut interdire la chasse à court, organisons un débat démocratique, mais cessons une fois pour toutes d'exploiter des faits divers au détriment de la vérité.
Et puis cela vous inspire aussi, Éric Brunet, c'était mercredi, la sortie du nouveau livre de Michel Onfray.
Eh oui, parce qu'on va vous en parler de Gaulle. On va parler un peu moins de Trump, mais on va parler beaucoup de Gaulle, parce que la semaine prochaine, lundi, c'est l'anniversaire de la mort de Gaulle. C'est le 50e anniversaire de la mort du général. Et justement, dans son bouquin, Michel Onfray met en parallèle la trajectoire du général de Gaulle et celle de François Mitterrand. Alors, sans surprise, Onfray est dithyrambique pour le premier et assassin pour le second. Je dis sans surprise parce que depuis maintenant 10 ou 15 ans, plus personne ou presque ne critique le général de Gaulle. On trouve des adorateurs de la Croix de Lorraine dans tous les partis, de Marine Le Pen à Mélenchon, en passant par Macron, Fillon, Xavier Bertrand. Il n'est pas un politique qui ne s'affirme gaulliste social, jusqu'à François Hollande. Tiens, Hollande s'était rendu en 2016 sur la tombe du général à Colombey-les-Deux-Églises, à croire que le slogan favori de nos politiques n'est plus « Je suis Charlie », mais « Je suis Charles ». Alors le gaullisme d'Onfray, qui reste Onfray, quoi qu'en disent ses détracteurs, un homme de gauche, n'a rien de paradoxal. Il y a toujours eu des gaullistes de gauche en France. Il y avait même un parti qui s'appelait l'Union démocratique du travail, et son patron, qui s'appelait René Capitan, gaulliste de gauche, était garde des Sceaux, ministre de la Justice sous De Gaulle. D'ailleurs, on l'a peut-être oublié, mais jusqu'à Sarkozy, les gaullistes du RPR et de l'UMP refusaient de se définir à droite. D'ailleurs, tiens, je sais pas Stéphane si vous savez, mais qui a déclaré « Rien ne serait pire que la tentation de placer le gaullisme à droite ».« Rien ne serait pire que la tentation de placer le gaullisme à droite », ben c'est Chirac, en 75, voilà.
Et ça suscite aussi vos commentaires, c'était mercredi. Le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, a déclaré devant le Sénat « La psychose française sur Amazon n'a aucun sens ».
Ah ouais, depuis le reconfinement, le géant américain est accusé de causer la perte des librairies de quartier, des petits commerces. Les politiques s'en sont mêlés. Roselyne Bachelot a déclaré « Amazon se gave, à nous de ne pas les gaver ». Anne Hidalgo appelle carrément au boycott, tandis que Bruno Le Maire accuse les GAFA d'être les adversaires des États. On aime bien ce genre de bagarre en France. Mais Cédric O a pourtant raison, je suis désolé. La focalisation sur Amazon est disproportionnée, d'autant que le géant américain est loin d'être la seule alternative à la fermeture des commerces non essentiels. Faut quand même rappeler que le e-commerce, c'est 10% du commerce en France, 10% seulement. Et Amazon, c'est 20% de ces 10%. Donc écoutez bien, attention, je sors ma calculette, Amazon, c'est 2% du commerce en France. Nous sommes le pays d'Europe où la part d'Amazon dans le e-commerce est la plus faible. L'essentiel d'ailleurs des achats de e-commerce bénéficie à des entreprises françaises. On a d'excellents sites, hein, concurrents d'Amazon, Fnac, Cdiscount, VP, Miracle, Mano Mano. De plus, les ventes qui s'effectuent sur Amazon profitent aussi à des boutiques françaises. Plus de 10 000 TPE et PME développent leur activité en ligne sur Amazon. Le problème de la France, c'est pas spécialement Amazon en fait, mais c'est plutôt la très faible numérisation des petits commerces. 30% de nos commerces français sont numérisés, alors que 72% des commerces allemands sont sur Internet. La vérité, c'est que nous, les Français, on paye un retard qui remonte au tout début d'Internet, lorsque la France croyait encore au Minitel et pas justement à Internet. Alors, il faut arrêter d'enfoncer sans arrêt Amazon, hein, je le rappelle, 2% seulement du commerce en ligne. Il faut en revanche qu'on se numérise très, très vite. Eric.